C'est le journal de Clémentine Pavlotsky. Bonjour Clémentine.
Bonjour Laetitia, bonjour à tous.
À la une de l'actualité, les condamnations qui se multiplient après la découverte de tags négationnistes au centre mémoriel d'Oradour-sur-Glane, ville martyre de la Seconde Guerre mondiale. Une plainte va être déposée dans la journée. Dans le reste de l'actualité, Clémentine.
L'université d'été de la France insoumise qui bat son plein, la crise du Covid-19 et ses conséquences alimentent les débats et vous l'entendrez, le parti de Jean-Luc Mélenchon a bien l'intention d'apporter sa réponse sociale à l'après-Covid-19. Aux États-Unis, le bras de fer autour du vote par correspondance se poursuit. Le chef de la Poste américaine a été auditionné hier par le Sénat. Les démocrates l'accusent de vouloir saboter l'envoi des bulletins de vote pour la présidentielle de novembre. Et puis on parlera littérature avec Histoire du fils, le nouveau roman de Marie-Hélène Lafon.
Les invités de cette matinale, 7h50, vous en parliez Clémentine. Marie-Cécile Naff, politologue spécialiste des États-Unis après la convention démocrate et avant celle des républicains. Et puis 8h20, Léonore Mauconduit, maire verte de Poitiers, et Sandra Régol, secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts, qui tient ses journées d'été à Pantin, près de Paris.
France Inter.
Colère et indignation en France après la profanation du centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane dans la Haute-Vienne.
Des tags négationnistes ont été inscrits sur le bâtiment, symbole de cette ville martyre de la Seconde Guerre mondiale. C'est là que 642 personnes ont été massacrées par les SS, c'était le 10 juin 1944. Le centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane annonce qu'il va porter plainte aujourd'hui. Le Premier ministre Jean Castex dénonce sur Twitter des actes infâmes. Il assure que tout est mis en œuvre pour que les auteurs de ces faits en répondent devant la justice. Le maire de la ville, Philippe Lacroix, se dit lui aussi très choqué, d'autant que ce type d'inscription révisionniste est une première.
Ça provoque de l'indignation, ça provoque de la colère, ça provoque aussi beaucoup d'inquiétude pour l'avenir, je ne vous le cache pas non plus. Je pense en cet instant aux 642 martyrs du massacre d'Oradour-sur-Glane, femmes et aux enfants brûlés dans l'église, je pense aux hommes fusillés dans les granges, je pense aux familles, à celles et ceux qui ont survécu, à leurs descendants, je pense à mon ami Robert Ebras, le dernier survivant du massacre d'Oradour. Je me dis que c'est extrêmement triste, mais bon, il y a une enquête qui est en cours, j'espère qu'elle aboutira. Et puis encore une fois, je crois qu'il faut condamner toutes celles et ceux qui profèrent ces thèses et aussi ceux qui les soutiennent. Je me dis qu'il va falloir qu'on soit vigilant, qu'on continue à travailler le devoir de mémoire avec effectivement le Centre de la Mémoire, l'Association Nationale des Familles des Martyrs, l'État bien évidemment, qu'on essaye bien évidemment de continuer d'inculquer aux jeunes la vérité historique, ce qu'il s'est passé réellement au Oradour-sur-Glane, parce qu'à un moment donné, il peut s'écrire tout et n'importe quoi. Et ça, pour nous, c'est absolument intolérable.
Philippe Lacroix, le maire d'Oradour-sur-Glane, joint par Noémie Bonin. Toujours en France, c'est une nouvelle révélation dans l'affaire Estelle Mouzin, du nom de cette fillette de 9 ans disparue en janvier 2003 à Guermantes, en Seine-et-Marne. Monique Olivier, l'ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret, affirme que c'est lui qui l'a enlevée, violée et tuée. Des propos confirmés par des traces d'ADN retrouvées dans une maison familiale dans les Ardennes. Monique Olivier est interrogée depuis mardi par la juge d'instruction. Le corps d'Estelle Mouzin n'a toutefois pas encore été retrouvé.
Journée d'été de la France insoumise, c'est en ce moment même près de Valence dans la Drôme.
Et au programme, 4 jours de rencontres entre les militants et de débats. Il est notamment question de l'après-coronavirus. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon veut agir sur tous les fronts, aide directe aux démunis, mobilisation sociale et opposition politique. Sarah Tucherer.
Les conséquences du Covid, Fanny en est témoin tous les jours. Militante La France Insoumise, elle est aussi assistante sociale à Lille.
Des gamins qui ont vraiment faim, avec les minima sociaux, avant on n'avait pas ça quoi. En fait, tout le monde descend d'un échelon, quoi.
Avec son groupe de militants, elle a lancé l'opération Panier Suspendu.
C'est des paniers de solidarité. J'ai les moyens, je mets une boîte de conserve, par exemple. J'ai les moyens, je mets, et j'ai besoin, je prends.
Ces initiatives sont encouragées par la direction du mouvement. Une affiche indique d'ailleurs qui en est à l'origine. Autre mode d'action, plus classique, les manifestations. La France Insoumise battra bientôt le pavé avec les Gilets jaunes, puis les syndicats. Laurent Degout, ses représentants de Sud.
Oui, il va falloir se mobiliser. C'est mieux de se mobiliser de manière massive, tout corps de métier confondu, que de le faire de manière dispersée.
La députée Mathilde Panot envisage aussi la lutte sur le plan politique.
Ce qu'est en train de faire le gouvernement, c'est de dire finalement, on va continuer comme avant. Et tant pis pour les gens qui paieront la crise sociale. Ce qu'on dit, c'est plus jamais ça, donc repensons tout ça et faisons cette bifurcation écologique et solidaire.
La bifurcation écologique et solidaire, c'est le nom donné par les insoumis à leur proposition pour sortir de la crise, une alternative au plan de relance du gouvernement annoncé la semaine prochaine.
Dans l'actualité internationale, l'opposant russe Alexeï Navalny a quitté la Russie cette nuit. Son avion médicalisé a décollé de la ville d'Omsk en Sibérie. Il doit rejoindre Berlin en Allemagne pour y être soigné. Alexeï Navalny est toujours aux dernières nouvelles dans le coma sous assistance respiratoire.
La campagne américaine pour l'élection présidentielle aux États-Unis, avec la question du vote par correspondance toujours sensible.
Le président Donald Trump continue de s'opposer au vote par correspondance lors de cette présidentielle du 3 novembre. Il estime que cela risque d'entraîner des fraudes et de leur côté, les démocrates accusent le patron de la Poste américaine, un proche du président américain, de vouloir saboter le service public et limiter la capacité de la Poste à acheminer les bulletins de vote. Le patron de la Poste américaine a d'ailleurs été auditionné hier au Sénat à Washington, Grégory Phillips.
En visioconférence, la commission du Sénat auditionne Louise DeJoy, qui dirige l'USPS depuis le 15 juin dernier. Ce proche de Trump, il a été l'un des gros donateurs de la campagne 2016, lève la main droite et jure de dire toute la vérité. Puis les sénateurs démocrates le pressent de questions. Oui ou non, serez-vous capable cette année de délivrer au moins 95% des bulletins de vote dans un délai de 1 à 3 jours? Oui, madame. DeJoy ajoute, je veux assurer à ce comité et au public américain que le service postal est pleinement capable de livrer le courrier électoral du pays en toute sécurité et à temps. Mardi dernier, Louise DeJoy a annoncé qu'il suspendait certaines réformes, comme la limitation des heures supplémentaires des facteurs, la suppression de centaines de boîtes à lettres dans les rues ou la fermeture de plusieurs centres de tri. Tout cela, promet-il, est repoussé à après l'élection. Insuffisant, disent les démocrates qui veulent sauver la Poste américaine. Ce samedi, la Chambre des représentants doit se pencher sur un plan d'urgence de 25 milliards de dollars pour éponger une partie de son déficit. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Après plusieurs mois d'affrontements sanglants en Libye, les deux parties en conflit annoncent la cessation de tous les combats sur le territoire et l'organisation d'élections.
Deux annonces faites séparément hier, d'une part par le gouvernement d'Union nationale basé à Tripoli et d'autre part par les forces du maréchal Khalifa Haftar. L'initiative a été saluée par l'ONU ainsi que par plusieurs pays arabes et occidentaux. Alors faut-il y voir le début d'une paix durable en Libye? Élément de réponse avec notre correspondante régionale Maureen Mercier.
Le conflit s'est internationalisé au point que les Libyens ne sont plus maître de leur destin. Il faut donc comprendre qui est derrière ces déclarations. Les États-Unis, selon Jalal Arshaoui, spécialiste de la Libye.
Ils sont entrés dans cette dynamique, il est vrai, avec un désir d'abord de faire reculer la présence des mercenaires russes.
Des mercenaires russes qui soutiennent le maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, face au gouvernement reconnu par l'ONU qui contrôle l'Ouest du pays. D'un point de vue géopolitique, cette présence russe dans un pays aussi stratégique que la Libye ne peut que déplaire aux États-Unis. Mais pour Jalal Arshaoui, toute la question est, les Américains peuvent-ils changer le comportement des Émirats Arabes Unis? Les Émirats, plus grand soutien encore que les Russes au maréchal Haftar.
Généralement, les Américains n'ont pas réellement réussi à modifier le comportement des Émirats Arabes Unis en Libye. Dans les cas les plus optimistes, ils disent oui et ne font pas vraiment ce qu'ils promettent. Donc il ne faut pas lire cette nouvelle avec trop d'enthousiasme.
La paix n'est depuis longtemps plus entre nos mains, mais entre celles des grandes puissances, après la Russie, les Émirats, la Turquie, maintenant en plus les États-Unis. Les mots d'un Libyen qui, comme la plupart de la population, ne se fait pas non plus la moindre illusion. Tunis, Maureen Mercier, France Inter.
La rentrée littéraire à présent avec ce matin le nouveau roman de Marie-Hélène Lafont, Histoire du fils. Le roman se déroule au début du XXe siècle entre le Lot, le Cantal et Paris, autour du personnage d'André, mais né d'une mère peu conformiste et d'un père inconnu. Il est très vite confronté à la question du secret de sa naissance. Ce livre nous est présenté par Ilana Mori-Youssef.
Avec Marie-Hélène Lafont, il ne faut pas se fier à la clarté et à la précision de la prose qui en font l'une de nos plus grandes stylistes. Sous les mots, il y a la complexité. Cité des êtres, il y a des vies à double fond. Au centre de son nouveau roman, Histoire du fils, il y a André, né d'une mère distante et d'un père inconnu.
C'est cet adjectif inconnu qui doit être questionné parce que André, quand il a à peu près 10 ans, il sait depuis toujours que son père est inconnu. Mais il commence à se poser la question de savoir si ce père sait que lui existe? C'est-à-dire, est-il lui aussi un fils inconnu? La question de la filiation, de toute façon, est récurrente, lancinante, ouverte, violemment ouverte, douloureusement ouverte dans tous mes livres.
Marie-Hélène Lafont ne fait pas au lecteur l'offense d'une réponse facile. On ne sait pas, à la fin du récit, si le père savait ou pas qu'il avait un fils. C'est indécidable pour nous comme pour André.
Il ne saura jamais s'il a existé dans le désir de cet homme. Il ne le saura jamais. Et il va faire avec. Il va aller de l'avant avec et inventer sa vie. On ne va ni du côté du pathos, ni du côté de la victimisation, tout pensif qui me fatigue et pour lequel je n'ai aucune aptitude. On va du côté de l'invention de soi et déjà ça, ça occupe.
Une invention de soi que s'était déjà offerte Gabrielle, la mère d'André, à rebours des préjugés de son époque.
Ilana Mori-Youssef sur France Inter.
Merci Clémentine Pavlotsky.